écrit dans les livres que nous sommes plus grands que nous. Les livres m'ont sauvé, parce que je viens du fin fond de la pauvreté, et j'ai puisé les forces là de vaincre ce qui prétendait me déterminer à ce moment-là, et je pense que c'est la grande leçon du livre, c'est qu'il y a en nous une capacité de résistance, une dimension de liberté.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Pascal Paradou.
En quelques secondes ou en 260 pages, Michel Lebris ne cesse de dire son amour des mots et des livres. Le manifeste pour une littérature monde en français, c'est lui. Le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, c'est encore lui. Ancien journaliste, cofondateur avec Sartre de La Cause du Peuple, fin connaisseur de jazz et spécialiste de Robert Louis Stevenson, écrivain d'aventure, romancier, il chérit comme un trésor les livres et confie cet amour dans un récit intitulé « Pour l'amour des livres ». Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
Ce livre est une déclaration d'amour, mais c'est aussi une forme d'autobiographie ou un récit d'initiation, parce que vous racontez finalement votre vie par vos lectures.
Oui, je tenais pas spécialement à raconter ma vie. Je voulais montrer comment, depuis le point où je partais, je m'étais construit à travers les livres. Les livres et le poème du monde, mais c'est difficile de les distinguer parce que ce sont les livres aussi qui vous font percevoir le poème du monde. Et c'est le poème du monde qui vous fait entrer d'une certaine manière en littérature. Donc j'ai du mal à séparer les deux. Mais c'est comme si chaque livre était comme une porte qui ouvrait sur un monde. Autant de livres, autant de mondes. Et ces mondes-là, c'était moi en même temps.
Alors c'est l'histoire d'un homme qui est lecteur, énorme lecteur, qui devient écrivain. Est-ce que vous, Michel Lebris, écrivain, vous êtes l'héritier de cette bibliothèque ?
Pour une part, oui, très certainement. Je dis au début du livre, nous naissons dans le bruissement de milliers de livres. Et ça, je l'ai ressenti à cette époque-là, je le ressens encore aujourd'hui. Nous sommes tous des transmetteurs, créateurs ou pas, nous sommes des transmetteurs. C'est cette idée d'une complète originalité qui ne devrait rien à personne. C'est du vent. On poursuit un rêve, on poursuit un message qui traverse toute l'histoire de la création artistique, de la littérature, de la poésie. Elle vous éveille à des mondes et votre responsabilité est de prolonger ce champ d'une certaine manière.
En écrivant ce livre, qui s'intitule donc « Pour l'amour des livres », qu'avez-vous découvert ? Parce que vous dites à un moment « écrire et se risquer à son propre inconnu ».
Oui, toujours. Je prends un exemple très simple, je dis qui c'est qui écrit quand on écrit ? Il y a des moments où on se demande bien, et quand je bute sur une phrase qui, je sais que ce que je veux dire, c'est bête comme chou, et la phrase ne vient pas. C'est-à-dire, elle ne sonne pas, elle n'a pas de musique, elle n'a pas de rythme, je la triture dans tous les sens, et non, ça fonctionne pas. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire. Il suffit après que je me concentre le soir sur la phrase en question. J'ai un petit carnet au pied du lit quand je me réveille le matin et ça ne me manque jamais. C'est toujours là. Il y a la phrase qui est là, qui m'attend. Il faut la capter au vol, sinon elle s'en va en courant. Mmh. On la capte au vol, on la note et on sait que la phrase est juste, musicalement. Et on sait que cette phrase a raison alors que c'est le contraire. Elle dit le contraire de ce qu'on essayait de dire. Et je fais confiance presque aveuglément au rythme, à la musique des mots. Si ça sonne, c'est que c'est juste. Et c'est juste que ça m'indique que je me trompais, que c'est pour ça que je n'arrivais pas à écrire. Et chaque phrase comme ça contient la suivante, et celle d'après. Et hop, vous êtes emporté comme si vous étiez en train de faire du surf sur une vague.
Et donc il faut sortir de la nuit, en fait.
Et cette vague, oui, cette vague qui vous porte, qui vous traverse, c'est vous en même temps. Mais quelque chose de vous que vous ne saviez pas à ce moment-là. Et c'est ça qui fait le prix de la littérature. Si on savait d'avance ce que l'on veut dire, Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parfois, je reçois des livres, des projets de livres, ce sont des synopsis. Et ça m'intéresse absolument pas. On n'est pas là en train de remplir des cases, vous faire ci, ça, etc. Non, il faut justement se laisser porter par cette vague.
Michel Le Bris, nous allons évoquer seulement, car le temps de la radio n'est pas extensible, et ce n'est que de la radio, mais parfois entendre parler d'un livre avec passion permet de découvrir un auteur. Donc nous allons parler de Hugo, de Conrad, de Stevenson ou de Guy Evic. Mais d'abord, Jan Tersen. De Jan Tersen, extrait de son nouvel album. Vous êtes un peu pays, hein, avec Tersen, comme on dit. Vous parlez breton, Michel Le Bris ?
Non.
Pas du tout.
J'ai la musique dans l'oreille, mais comme l'instituteur était venu voir ma mère en disant, Marie, il faut pas qu'il apprenne le breton si tu veux qu'il réussisse à l'école. Elle a fait le tour des fermes autour, en disant, bon, vous lui parlez pas breton. Donc voilà. Ma langue, c'est le français. Mon instrument de musique est le français.
J'évoquais Hugo et Stevenson, mais le premier livre que vous citez dans ce récit pour l'amour des livres, Michel Le Bris, est La guerre du feu de Rosny Henné, écrit au tout début du XXe siècle. Et alors, c'est incroyable ce que vous dites parce que j'ai l'impression que c'est un souvenir encore très très vif. Vous racontez comment vous avez été pris par ce roman.
Ah oui, ça, c'était mon cadeau pour mon entrée en sixième. J'allais à Morlaix le chercher, librairie Rioux-Kerney, en collection rouge et or. Puis je l'ouvre, j'ai été foudroyé net. Les ourames fuyaient dans la nuit épouvantable, tout leur semblait vain. Devant la calamité suprême, le feu était mort. Waouh ! Et c'était une espèce d'énorme rumination du monde en gésine, comme ça, où mêlant les hommes, les animaux, les roches, le végétal, il y a une espèce de puissance énorme, comme ça, au cœur du monde, qui brassait tout. Et ça, j'avais la mer, moi, à côté. Et la mer, pour moi, c'était la même chose. Quand vous naissez au bord de mer, comme ça, bien sûr, dans les tempêtes de Suroît, dans l'automne...
Oui, ça souffle, hein, en Bretagne.
Ça cogne, ça tonne. On a l'impression que la maison va s'envoler, etc. Toute la puissance de destruction du monde est là. Et c'est aussi toute la puissance de création. Et mon intuition de départ, tout gosse, c'était que c'était la même. Et ma mère s'inquiétait un peu, parce que j'étais un peu bizarre de me glisser entre les lames de granit de la falaise pour sentir les vagues qui cognaient contre les lames, qui tremblaient. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, je lis Victor Hugo, La légende des siècles, en petite collection, Attier et Violette, là, je me rappelle. Et puis, je regardais autour de moi, est-ce que quelqu'un me voit? Non, personne. Hop, je commençais à déclamer, il dit, des racines, un chêne, etc. Waouh, la mer arrivait, en cognant contre les... Il y avait même ce miracle qui était la Bibliothèque verte à l'époque. Et j'ai découvert Jack London, Melville, Conrad. Et j'ai su, avec une force qui m'habite encore, je crois, que tous ces auteurs-là n'avaient pas d'autre sujet que le mystère de cette mère-là qui cognait, hurlait contre les falaises, où le lendemain était d'un calme extraordinaire, qu'ils n'avaient pas d'autre sujet que celui-là. C'était cette puissance-là qui était au cœur de leurs œuvres.
Alors, vous avez beaucoup écrit autour de la mer, autour de la flibuste, oui, autour des pirates. Est-ce que vous pensez que le goût de l'aventure et du roman d'aventure, j'aime beaucoup votre définition, le roman, c'est raconter un mensonge qui se transforme en vérité. Est-ce que vous pensez que c'est né de ces premières lectures, finalement?
Ah oui, parce que presque tout de suite, je lis La Guerre du Feu, ma première rédaction en sixième, donc j'étais tellement transporté d'enthousiasme, j'ai dû rédiger tout un cahier. Puis l'instituteur me dit, qu'est-ce qui te prend là? Donc je lui raconte, et il a cette réaction extraordinaire. Je lui donne son nom parce que vraiment, je lui dois beaucoup, Monsieur Rospar, Fred Rospar. Il me dit, écoute, moi je donne des sujets, mais si t'as envie de raconter autre chose, c'est ça qui compte surtout, n'hésite pas, tu peux écrire. J'ai eu sujet libre, en gros j'ai écrit une nouvelle, chaque semaine, pendant 4 ans, et lui était là pour me guider, en m'ouvrant toute sa bibliothèque, en me disant, qu'est-ce que je peux prendre? Tu peux prendre ce que tu veux. Oui, mais alors, il y a peut-être des trucs... Non, mais si tu comprends pas, de toute manière, tu le liras pas, tu laisseras tomber, c'est pas grave, tu le liras plus tard. C'est comme ça que j'ai lu La Condition humaine quand j'avais 10 ans.
Oui, c'est ce qui fait de vous un lecteur assez précoce. Alors, vous citez Monsieur Rospar, peut-être que quelques auditeurs de RFI l'ont connu, car après vous avoir donné le virus comme ça de la littérature, il a enseigné en Algérie après l'indépendance, et à Boaké, en Côte d'Ivoire, à la fin de sa vie professionnelle, et sans lui, pas de Michel Lebris.
Peut-être pas, non. Moi, ce livre-là, j'ai voulu aussi, quelque part, dire mes dettes envers ceux qui m'ont accompagné pendant tout ce temps-là.
Vous avez conservé tous les livres que vous citez, tous les livres que vous avez lus?
Bien sûr. Ah oui, oui.
Tous?
Ah, tous, oui.
Mais elle ressemble à quoi, votre bibliothèque? Enfin, vos bibliothèques, j'imagine.
1,2 km.
1,2 km?
Oui, parce que... On a envisagé, dans une petite maison dans la baie de Morlaix, on avait envisagé de déménager un jour, de s'installer là-bas. Sauf que, où mettre les livres? C'est là que j'ai commencé à mesurer, parce que j'ai pas la moindre idée du nombre, je pense que ça doit être 30 000 ou quelque chose comme ça, ou peut-être plus de livres. J'ai commencé à mesurer les rayonnages, simplement. Et là, je me dis, mais jamais je pourrais déménager, c'est pas possible, je suis prisonnier de mes livres.
Et dans cette bibliothèque, il y a, si je vous crois, 500 livres consacrés à Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, du Maître de Ballantry, et de La Malle en cuir que vous avez fini, car c'était un roman inachevé de Stevenson. C'est un peu le grand amour de votre vie, Stevenson?
Pas seulement, mais le hasard, il y a des hasards comme ça, il faut se laisser guider. J'étais en Californie pour un projet de roman qui se passe pendant la ruée vers l'or, comme ça, et je tombe à Monterey sur une Stevenson House. J'ignorais tout du voyage de Stevenson aux États-Unis. Peu de gens le savaient d'ailleurs, parce que il avait bien écrit un livre sur ses voyages, mais son père avait racheté toute l'édition pour que personne ne le lise, parce que ils avaient en fait abandonné leur fils dans des circonstances dramatiques, comme ça. Ils avaient laissé seul en Californie, il a failli mourir. Il ne voulait pas que ça se sache, quoi. Je tombe sur Stevenson là, et c'était comme si, entre le voyage que je faisais et l'histoire de Stevenson, des tas de résonances venaient, les chercheurs d'or. Je trouve un endroit dont je réalise après que c'était en réalité l'île au trésor. Je trouve la lettre où Stevenson le dit, parce qu'il y a des gens qui les placent dans les Caraïbes, ou c'est du pipeau. Il y a une lettre dont je donne la référence en plus. Et j'ai l'impression que ce voyage, c'était aussi un voyage pour découvrir l'île au trésor. Découvrir géographiquement, mais découvrir surtout ce que ce livre-là mettait en jeu de l'idée littérature. Il l'a publié avec 5 essais sur la littérature qui sont absolument foudroyants, qui ont bouleversé quelqu'un comme Henry James, par exemple, qui est devenu son ami, qui considérait Stevenson comme le plus grand écrivain de son temps. Stevenson pensait que c'était James. Et j'ai eu le bonheur aussi de publier leur correspondance, de retrouver tout ce qui est connu des lettres des deux personnes, et j'ai pu faire cette édition qui n'existe pas en anglais, l'édition la plus complète qui soit de la correspondance autour de ce simple mystère, disait-il, raconter une histoire.
Extrait de L'île au trésor, lu par Jean Rochefort, Jacques Duby et Jean Servet.
Messieurs, je vous présente John Silver, notre cuisinier. C'est lui qui m'a aidé à mettre la main sur notre équipage.
De vrais loups de mer. Pas beau à voir, mais de rude marin, vous pouvez me croire.
Le capitaine Smollett désire parler à monsieur Trelawney.
Mais je suis aux ordres du capitaine. Faites-le entrer. Eh bien, capitaine, tout va bien, j'espère?
Ma foi, monsieur, il vaut mieux parler franc. Je n'aime pas beaucoup cette expédition. Je n'aime pas le second que vous m'avez donné. Je n'aime pas l'équipage. Ces gens ont de drôles de têtes. Sans compter qu'on aurait pu confier au capitaine le soin de choisir ses hommes plutôt qu'au cuisinier.
En effet, mon ami Trelawney aurait mieux fait de vous consulter en cette matière.
Est-ce tout, capitaine?
J'ajouterai que je n'aime pas le cuisinier.
Ah, je m'explique pourquoi vous avez fait placer les armes et les poudres à l'arrière du bateau, à proximité de nos cabines.
Messieurs, êtes-vous toujours décidé à partir?
Mais assurément.
À votre aise. J'ai fait mon devoir.
Stevenson, L'île au trésor, c'est certainement l'un des romans les plus connus de Stevenson, notamment parce qu'il s'adresse aussi aux enfants, Michel Lebris, et vous insistez dans votre livre du lien qui peut exister entre enfance et lecture, du lien entre le jeu et la littérature. Finalement, la littérature, c'est « fais-moi croire ».
Voilà, exactement. Parfois, ça m'agace un peu de voir l'avalanche de commentaires de personnes extrêmement érudites, certes, mais qui ont oublié leur part d'enfance, la part d'émerveillement. Joli texte que je cite de Graham Greene, où il dit, bon, soyons francs, on peut, en grandissant, on pourra goûter à des plaisirs civilisés en découvrant un livre, mais rien ne remplacera l'éblouissement des premiers textes où vous avez le sentiment que des mondes viennent de s'ouvrir pour vous. Et ça, je crois que c'est profondément vrai. Des tas d'auteurs l'ont dit. D'ailleurs, si on perd ce que met en jeu le jeu, si on oublie ça, on oublie quelque chose d'essentiel de la littérature. C'est le grand jeu du « faut-moi croire ». Raconte-moi une histoire. Qu'est-ce que c'est que raconter une histoire? C'est ça qui est important.
Vous le dites parce que vous êtes un écrivain, parce que vous êtes un spécialiste de littérature, mais vous le dites aussi parce que vous avez été un petit garçon qui a vécu cette expérience-là, issu d'une famille assez pauvre, très pauvre même, élevée par une mère célibataire, on disait fille-mère à l'époque, et qui a consacré finalement sa vie à faire que vous en ayez une plus belle.
Elle a eu sa vie détruite à l'âge de 10 ans, en trouvant ma grand-mère qui était veuve de guerre, paralysée dans le jardin, et elle a dû s'occuper d'elle à l'âge de 10 ans. Enfin, c'est là une vie terrible, et sa revanche sur l'existence, c'était que je m'en sorte, que je réussisse. Oui.
Et en même temps, elle a toujours été joyeuse, la maison était pleine de fleurs, disiez-vous, oui. Et il y a une très belle scène que j'ai trouvée très émouvante dans votre livre. Vous racontez comment votre grand-mère alitée vous apprend à lire et s'amuse à vous faire conjuguer le verbe gagner.
Oui, que vous gagnasses. Ça faisait rire. Ça, c'est les gens chics qui doivent parler comme ça. Ça la faisait rouler de rire. Vous imaginez? Parce qu'elle n'était pas allée à l'école. Ma mère ne pouvait pas me laisser aller à l'école puisqu'il fallait qu'elle travaille. Il fallait bien quelqu'un pour s'occuper de la grand-mère. Donc, je suis allé à l'école 6 ans et demi, peut-être 7 ans, enfin, je sais plus. Mais elle avait acheté des livres de classe, et puis ils avaient donné à ma grand-mère, qui n'avait pas la moindre idée de qu'est-ce qu'il fallait apprendre ou comment, donc pour elle, c'était pas très compliqué, tous les livres, de la première page à la dernière, par cœur. Elle avait une baguette, le tableau, c'était la porte, on poussait son lit, sa chaise longue, et puis j'ai appris à lire, écrire, compter, etc., comme ça, et elle avait sa baguette, si je me trompais, donc, ça rigolait pas, c'était une... Donc, apprendre, c'était apprendre par cœur. Donc, je suis arrivé à l'école. L'institut, il me dit, bon, mais écoute, moi, je suis prêt à faire des... Ben non, il faut faire rattraper tout ça. Qu'est-ce que tu sais? Compter, tu connais tes tables de multiplication. Bon, et les verbes aussi. Alors, quand même, il m'a demandé, quand même, l'imparfait du subjonctif, tu sais pas. Et là, je me dis, non. En fait, je savais.
Mais vous n'avez pas osé lui dire?
Ben non, parce qu'il me regardait d'un air tellement bizarre que j'ai eu une drôle de formation au départ que je ne regrette pas.
Oui, d'une certaine façon, vous leur dites merci aussi, ben à votre mère.
Oui,
et,
oui.
Et grand-mère. Et puis apprendre par cœur a du bon parce que, et j'aimerais solliciter votre mémoire, Michel Lebris, vous parlez dans ce livre de romancier, d'auteur de romans, mais aussi de poète, dont un certain Guillet-Vic, Eugène Guillet-Vic, qui est un poète breton décédé il y a une vingtaine d'années, et vous me l'avez fait découvrir, hein. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je partage cette découverte avec les auditeurs. J'aimerais que vous me citiez donc de mémoire un poème de Guillet-Vic.
C'est un poème que j'avais fait découvrir à des gosses dans une classe. Et donc pour faire comprendre ce que c'était qu'un poème, j'ai pensé à Guillet-Vic, que peu de gens connaissent alors qu'il a été dans les listes des Nobélisables pendant des années. C'est très certainement un des deux, avec René Char peut-être, plus grand poète français du XXe siècle, mais très discret, donc on le connaît beaucoup moins. C'était un poème sur le fantastique de la matière, le fantastique du monde, le poids de silence des choses en même temps. Et donc c'est des formes toujours très brèves. C'est un poème sur l'armoire. L'armoire était de chêne et n'était pas ouverte. Peut-être il en serait tombé du pain, peut-être il en serait tombé des morts. Beaucoup de pain, beaucoup de morts. Eh ben, ça, c'est pas un meuble de rangement, c'est toute une mémoire, c'est la présence massive de quelque chose qui a une histoire, quelque chose de mystérieux. On sait que ce meuble usé, ses portes, portent une mémoire, que des tas de gens l'ont ouvert, qu'il y a eu des tas de choses dedans, et qu'il y a cette présence massive des choses, c'est ça la poésie.
Michel Lebris, vous battez en brèche dans ce livre l'idée que la poésie serait difficile, et vous venez de nous en donner un exemple. Vous écrivez « Les mots ne sont pas des catafalques ». Les mots ne s'épuisent pas dans les choses qu'ils désignent. S'ils le faisaient, ils ne diraient plus rien et pour le coup, le monde serait devenu muet, nous serait étranger. Que dire de plus ?
Oui.
Sauf à penser la terreur d'un monde qui serait muet.
Oui, ou totalement transparent à lui-même. Il y a une épaisseur, une résonance des mots. Pensez à la puissance du rythme. Sans rythme, on ne comprend pas ce qui est dit. Et pourtant, ça précède le sens, ça le porte, ça le crée. Ou sinon, le poème serait traduisible dans sa propre langue. C'est-à-dire, bon, ben voilà, le poème, ça serait juste quelques petites enjolivures pour dire quelque chose qui est extérieur à ça, qui y a un sens propre qu'il s'agissait de donner. Mais dans ce cas-là, s'il y a un sens propre, autant le dire tout de suite, au lieu de perdre son temps à des ronds de jambes.
Michel Lebris, vous avez été un militant politique dans les années 60-70, oui. Comme tous les intellectuels de cette époque, finalement. Oui. Tout le monde était gauchiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore un militant, et non pas politique, mais un militant de la langue et de la francophonie?
Ah oui, absolument. La francophonie est le seul avenir, c'est l'espace monde en français. On avait fait un manifeste à plusieurs sur cette idée d'un espace monde en français, en disant où le français mourra, ou bien il sera la langue d'un espace monde. Sinon, il y a un repli sur soi presque inéluctable.
Mais ça suppose une décentralisation, que la francophonie se décentre de la France vers l'Afrique.
La vision que l'on en avait traditionnellement, jusqu'à ce qu'on publie ce manifeste qui a fait scandale, mais j'ai remarqué que l'année dernière, le président Macron, dans sa déclaration sur la francophonie, a repris purement et simplement tout ce manifeste, qui disait quoi ? Très simple, c'est cette vision d'une francophonie pyramidale où la France dispenserait ses lumières en clair sur ses anciennes colonies est insupportable et ça porte la mort du français, sa sclérose d'une certaine manière. Et il faut oser penser au contraire à un monde d'échange au niveau horizontal, plus de verticalité comme ça, d'un centre qui dirigerait tout, qui dicterait le bon goût, etc., mais un espace de dialogue.
Plus d'Académie française, par exemple.
Si, alors, ce qui est drôle, c'est que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui nous est dégringolé dessus quand on a sorti ce manifeste, avec toute une génération d'écrivains africains, ceux dont on parle aujourd'hui, Mabankou, Berry, Kosiyefoui, etc., etc. Tous partageaient ce sentiment qu'il fallait cet espace-là pour qu'il y ait une respiration. L'idée d'une langue monde, et pas simplement une langue crispée sur une supposée tradition. Alors, où vous placez le curseur, à Charles Martel, ou quand, et après, commencerait une décadence, etc. Non, il y a un espace de création, comme ça, à recréer. Et je remarque, d'abord, que Daniela Ferrière, qui fait partie de cette aventure, qui était signataire aussi du manifeste, s'est retrouvée à l'Académie française. Je trouve que c'est une reconnaissance tout à fait étonnante de cette importance-là. Le dictionnaire de l'Académie française, ils ont commencé à travailler à ce que ce dictionnaire soit un dictionnaire du français francophone, de tout l'espace francophone, recueillant des expressions, des mots, etc. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie comme ça. Quand on a lancé ce manifeste, qu'on a créé le festival, les livres africains, ils étaient dans un rayon francophonie, sous la poussière, comme ça. Et puis on a vu apparaître les bouquins sur la table des nouveautés. On voyait Daniela Ferrière, Mabanko, etc., sur les tables de nouveautés, parmi des romans français. Et ça voulait dire que l'évolution était énorme dans les têtes.
Cela suppose quand même que le français bouge, oui. S'adapte, oui. Capte d'autres influences, tout d'autres fait, accents, oui. d'autres mots, oui. Que celui qu'il a l'habitude de
travailler. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais en même temps, les mots sont nomades, les mots franchissent les frontières, les mots sont des migrants, et c'est ça qui fait la vie de la langue. Il y a des choses, parce que bon, vous remplacez bus par quoi, ou tramway, ça s'impose, c'est quand tout d'un coup, il y a un renoncement à la puissance création du français, que les choses dérapent et ne vont plus. Et là, c'est un envahissement de ridicule, d'ailleurs, de mots étrangers, généralement.
Mais
américains.
Vous pensez que le français invente encore ? Que cette puissance existe ou qu'elle oui. s'est un peu affaiblie ?
Ah, si vous lisez les auteurs haïtiens, antillais, africains, il y a une invention du langage. Vous lisez un auteur que j'aime beaucoup, qui vient de sortir Idiotie, il y a une puissance de...
Pierre Guillotat, oui.
Oui, Pierre Guillotat, il y a une puissance de création du langage. Et maintenant, il ne faut pas venir se plaindre, il faut être capable d'inventer, tout simplement. Si il y a ce rétrécissement, c'est qu'on a perdu le sens à cause de sociologisme, force de sciences humaines, force d'avant-gardisme, de jeu formel littéraire. Moi, j'attaque très violemment tout ça en disant que c'est une époque qui est arrivée dans les années 50 à peu près. On s'est cru tous très intelligents avec la promesse du structuralisme qui promettait un savoir absolu sur tout, en fait sur rien. Mais j'ai mis un petit peu de temps à m'en débarrasser, 68 en fait. Hein, c'est là que tout d'un coup, le retour du sens, du sujet et de l'histoire qui était proscrit par les structuralistes, ben, c'était dans la rue que ça se passait. Sartre est sorti de chez lui, a foncé à la Sorbonne. En disant, mais ils m'ont quiquiné pendant toutes ces années, et ben ça y est, l'histoire, le sens, le sujet, ça revient. Et dans ce qui se passe aujourd'hui, dans les crises, on dit démocratie, etc., on sent un mal-être, etc., mais la maladie première, c'est ça, c'est la perte de cette dimension de grandeur intérieure à chaque être. Parce que sinon, vous avez ce que Hugo appelait la foule, et il disait, la foule, le pire ennemi du peuple. Parce que le peuple, c'est ensemble, dans la perception de cette grandeur commune, qu'on se multiplie l'un de l'autre dans cette dimension grande de l'être humain, pas dans la petitesse du lynchage, de la dénonciation, de l'insulte, de la non-écoute des autres, etc. On en est là dans l'exact opposé. Et je voulais faire ce livre-là aussi pour dire, voilà, c'est pas ma vie que je voulais raconter, c'est un cheminement. À quoi ça m'a mené, c'est l'importance capitale de cette part en chaque être humain. Parce que si un poète chinois né il y a 1000 ans, il a été écrit dans une ère culturelle différente, une langue qui est étrangère, vous le lisez traduit aujourd'hui, il vous parle au présent. C'est donc qu'il y a une dimension de transcendance dans l'œuvre, puisqu'elle a vaincu le temps, la mort, la barrière des langues. Donc cette dimension de transcendance, elle est dans celui qu'il a créé ce poème, mais il est aussi dans celui qui le perçoit, au présent, aujourd'hui. Et c'est cette dimension de grandeur qu'il y a en chaque être humain. Et on blesse chaque être humain quand on nie cette dimension en lui. C'est ça qui est important dans le livre, dans la création artistique.
D'où la dernière phrase de ce livre, « Nous sommes plus grands que nous ».
Voilà.
Merci Michel Lebris pour l'amour des livres est édité chez Grasset. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci et à très vite.